Radio Okapi.
Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Okapi. Ravi de vous retrouver. Je suis Gisèle Cage pour votre rendez-vous avec l'information. Voici les principaux faits qui dominent l'actualité. Prix de l'essence en Mbujimayi. La chute qui surprend tout le monde. Le litre perd jusqu'à 1000 francs congolais en une semaine. Station et Kadhafi revoient leur prix à la baisse. Ituri à Boga, les casquets bleus indonésiens renforcent la sécurité et rapprochent les communautés. En collaboration avec les FRDC, la MONUSCO a déployé une mission de longue portée marquée par la protection des civils, les soins médicaux et l'écoute des habitants. En vite du journal, Bridine Mbuya Mande alerte sur l'insécurité routière. Le président régional des camionneurs de la communauté de développement de l'Afrique australe dénonce les agressions et le vol visant les chauffeurs étrangers en RDC, notamment dans le Haut-Katanga et le Lualaba. À Mbujimayi, l'actualité économique s'emballe. Le prix de l'essence chute brusquement. Dans la capitale du Kasaï oriental, le litre d'essence connaît une baisse remarquable. Alors qu'il s'est vendu encore entre 4000 et 4500 francs congolais la semaine dernière, il est désormais affiché à 3700 francs dans les stations-service et descend même à 3500 francs congolais chez les revendeurs appelés Kadhafi. Qu'est-ce qui explique cette diminution soudaine? Les détails avec Esther Ndalafina.
Selon Toussaint Toumba, revendeur au niveau de la poste, cette diminution s'explique par une abondance de carburant sur le marché, confirmant ainsi la loi de l'offre et de la demande.
C'est dit à l'abondance, hein, ce moment-là, on a baissé le prix. Mais à part moment, nous faisons des remises.
Cette analyse est partagée par Willa Bukassa, premier vice-président à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, qui souligne l'arrivée massive de produits dans la région.
Il n'a pas d'autres explications que les circuit d'approvisionnement qui est quand même maintenu. Quand il y a assez de produits sur le marché, les produits ont tendance à voir les prix vers le bas. Vous devez comprendre, on a maintenu l'approvisionnement, les stocks sont assez suffisants. L'élan de l'inflation, l'élan de la hausse des prix s'arrête par la présence de stocks de produits sur le marché.
Cependant, malgré cette baisse, les prix de transport en commun restent inchangés. Les transporteurs fixent entre 1000 et 2000 francs congolais les tarifs de transport en commun. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Mwanda, la météo a encore frappé fort. Une pluie torrentielle s'est abattue jeudi 5 février sur la cité du Congo central, laissant derrière elle d'importants dégâts, des érosions béantes, des maisons emportées, surtout l'effondrement du pont Boudou-Boudou jeté sur la rivière du même nom, pourtant essentiel pour relier le rond-point Paul Panda Farnana à la frontière congolo-angolaise de Yema. Et les conséquences se font déjà sentir, selon l'élu de Mwanda, les députés provinciaux Jean Ndombasi Kimboko. Plusieurs véhicules en route vers la province angolaise de Cabinda via Yema sont complètement bloqués à Makele caissé depuis jeudi. Une situation urgente, estime l'élu qui réclame une réhabilitation immédiate de cette passerelle. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Puris Mambou.
La pluie torrentielle de l'avant-hier qui s'est abattue sur le littoral a encore rendu la vie impossible aux habitants de la cité côtière de Mwanda. De nouvelles érosions ont vu le jour comme d'habitude. Un décès enregistré par foudre dans la localité Itonembeleka. Plusieurs localités sont englouties par les eaux, faisant écrouler plusieurs maisons. Des familles entières ont perdu leurs biens, appelées aujourd'hui à déménager. Ce qui est grave, c'est opéré sur la route reliant le rond-point Paul Panda Farnana à la frontière de Yema où le pont Boudou-Boudou, si la rivière Boudou-Boudou s'est effondrée. Par conséquent, les cargos angolais, près d'une quarantaine de véhicules en partance à Cabinda, sont en stationnement entre Dupont-Perenco et la localité Makele-Kessé. Il faudra alors, en urgence et sans délai, y jeter un autre pont pour les véhicules de gros tonnage.
À noter également que le pont Yondika qui relie la cité de Mwanda au village du secteur de la mer n'a pas résisté non plus. Il s'est lui aussi effondré sous la même pluie torrentielle. En Ituri, les casques bleus de la MONUSCO, en coordination avec les forces armées de la RDC, intensifient leurs actions pour protéger les civils contre la menace de groupes armés. Dans cette dynamique, le contingent indonésien a mené du 29 au 30 janvier une mission de longue portée dans la zone de Boga, un village du territoire d'Irumu situé à environ 120 km au sud des Bunia. Cependant, cette opération ne s'est pas limitée à des activités de sécurité. De soins médicaux et des échanges directs avec la population ont transformé cette intervention en un véritable pont entre protection et solidarité. Les explications du major Ahmed Bouya, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO, au micro de Martial Papimukeba.
Au cours de cette opération, les casques bleus ont assuré une présence active sur les axes stratégiques reliant Tchabangazi à Malaya, patrouillant de jour comme de nuit pour maintenir la stabilité et surveiller toute activité des groupes armés. L'action comprenait également une dimension d'engagement communautaire. L'équipe médicale a prodigué des soins aux habitants blessés, une initiative accueillie chaleureusement par la communauté. Dans la même dynamique, le 28 janvier, l'équipe d'engagement féminine du contingent indonésien, en coordination avec les FARDC, a sécurisé les zones agricoles dans le cadre de l'opération Secure Harvest à Bogoro, permettant aux cultivateurs de travailler en toute sécurité sur des terres réhabilitées. Ces initiatives illustrent l'engagement constant de la MONUSCO pour la sécurité des communautés, le bien-être des populations et la confiance mutuelle entre casques bleus et habitants.
Et dans la continuité de ces actions de terrain, un autre témoignage vient illustrer l'impact du travail des casques bleus auprès des communautés. Nous sommes reconnaissants envers les casques bleus de la MONUSCO pour la protection dont nous bénéficions. C'est ce qu'ont déclaré le représentant des sites des déplacés de Loda et Djaïba, territoire de Djougou, lors de la visite d'une délégation des États membres siégeant à la 5e commission de l'ONU en charge du budget, de finances et de l'administration. Une mission destinée à évaluer le besoin réel et à renforcer la protection des populations dans un contexte encore marqué par les violences armées. Jean-Claude Lokidile était sur place. Voici son reportage.
Au cours des échanges, les diplomates ont voulu mesurer l'impact de l'action de la MONUSCO et identifier les défis liés à la protection des civils. Un bilan jugé encourageant par Jean-Baptiste Banga, déplacé, qui appelle au désarmement des groupes armés, condition essentielle pour un retour durable de la paix.
Sans MONUSCO, nous ne pouvons pas même vivre dans ces sites. Même sur nos champs, c'est toujours sous la protection directe de la MONUSCO. Mais cependant, que la MONUSCO fasse sont mieux avis de faire désarmer ces groupes armés qui nous menacent par-ci par-là.
Pour sa part, le colonel Rufin Mapela, administrateur du territoire de Djougou, regrette la fermeture de certaines bases de la MONUSCO dans la zone, une situation susceptible de fragiliser les efforts de restauration de l'autorité de l'État.
Prenons par exemple, si on ferme les sites de la MONUSCO d'ici de Djaïba, toutes ces populations qui sont dans les sites, qui vont les protéger? Or, ici, ils doivent avoir les moyens pour qu'on puisse arriver à mettre ça à la disposition des contingents, ce qui est très important pour nous, et c'est ce que nous demandons, que cette commission puisse revoir la situation financière au sein de la MONUSCO pour que nous soyons vraiment dans les bons sens dans nos missions.
Sur le terrain, les populations espèrent désormais que cette visite débouchera sur des décisions capables de renforcer leur sécurité au quotidien. De retour des Fataki, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Les réactions continuent de fuser après l'attaque par drone kamikaze qui a visé fin janvier l'aéroport de Bangoka à Kisangani dans la province de la Tchopo. Dans ces climats marqués par l'inquiétude et l'indignation, Grace Nehema, questeur adjointe de l'Assemblée nationale et élue du territoire d'Ango, dont les Bazouélé, a réagi ce samedi à Kinshasa, dénonçant une œuvre criminelle revendiquée par la rébellion de l'AFC M23. Elle appelle à une vigilance accrue aux frontières ainsi qu'à une collaboration renforcée entre les populations et les forces de sécurité, tout en saluant la promptitude des forces armées de la RDC face à cette attaque. Grace Nehema invite le gouvernement à mobiliser en urgence le moyen conséquent prévu dans la loi des finances 2026 afin de consolider la défense nationale. On l'écoute au micro de Grace Amzati.
Il était de notre devoir, en tant qu'élu de cet espace de la Grande Orientale, longtemps martyrisé et plusieurs fois endeuillé par de diverses crises insurrectionnelles, rébellions et conflits armés depuis 1964 jusqu'à la plus récente, celle des 6 jours opposant 2 armées étrangères dans la ville de Kisangani sur son sol, de condamner avec la plus grande fermeté ces actes inacceptables et ignobles tendant à recréer un climat de psychose, de terreur et de rupture de la paix au moment où notre pays, après plus de 3 décennies d'un cycle d'agression, s'apprête à tourner définitivement cette page douloureuse et regrettable de son histoire grâce au dynamisme diplomatique inédite et à la montée en puissance de nos forces armées impulsées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cher Pilita.
Elle en appelle également aux partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis et le Qatar, afin qu'ils veillent à l'application stricte et complète des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que des engagements pertinents contenus dans l'accord de Washington. En Nord Kivu, la situation sécuritaire et humanitaire reste plus que jamais préoccupante, avec la persistance des attaques des ADF et la présence active de la rébellion du M23 AFC. Face à cette montée des tensions, la société civile hausse le ton et demande au gouvernement ainsi qu'à ses partenaires d'agir sans délai, protéger les populations de Beni et Lubero menacées par les ADF et reprendre les zones aujourd'hui occupées par les rebelles du M23 AFC. Marc Marofimbo nous en dit davantage.
Dans les territoires de Lubero et de Beni, ce sont les ADF qui tuent les populations, les contraignant à fuir leur village pour chercher refuge ailleurs. C'est notamment le cas dans la chefferie de Baswara, en territoire de Lubero, et dans le secteur de Benimbao, en territoire de Beni, où plusieurs localités sont désertées. La localité de Mamove, par exemple, subit sa 16e attaque par les ADF, ce qui inquiète fortement la société civile, selon son président Kinos Katou.
La semaine passée, il y a eu des attaques. Même le vendredi, on a attaqué le village de Mutoe Iziro, où l'armée était alertée sur le mouvement de cet ennemi. Et voilà le village qui est vraiment très lourd. Et le village est vraiment vidé de toute sa population. Nous sommes vraiment très inquiets.
Cette sécurité doit cesser, affirme Eli Varuma, député national élu de Beni, rappelant que l'État a l'obligation d'assurer la paix pour sa population.
Ce qui se passe dans le Batangimbao doit s'arrêter. Et l'État a l'obligation d'apporter la paix à sa population.
Parallèlement, le chef d'état-major adjoint de l'armée congolaise chargé des opérations et du renseignement séjourne depuis 4 jours dans la région de Beni pour inspecter les troupes engagées sur toutes les lignes de front. Le général Jacques Kialigonzandourou évalue les capacités opérationnelles des FARDC, les moyens logistiques disponibles auprès des unités et cherche les moyens d'éradiquer le phénomène ADF. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons dans la région et plus précisément à Beni, où l'alerte monte d'un cran. Dans cette ville du Nord Kivu, la police appelle la population à dénoncer ceux qui utilisent le numéro vert pour désorienter les patrouilleurs lors d'alertes d'insécurité. Depuis quelques semaines, plusieurs cas d'insécurité, notamment de vols à main armée dans des domiciles, ont été signalés. Selon la police locale, certaines interventions nocturnes deviennent difficiles car des individus mal intentionnés exploitent le numéro vert pour détourner l'attention des patrouilleurs. Nasson Mourara, porte-parole et chargée de communication de la police à Beni, invite la population à signaler ces personnes et leurs complices afin de renforcer la sécurité de tous. Il s'exprime au micro de Martial Papi Moukeba.
Le numéro vert est disponible. C'est tout le monde qui appelle le numéro. Mais nous sommes désolés d'avoir remarqué que la majorité des gens qui appellent le numéro vert, ils ne sont pas des personnes victimes. Ce sont des personnes qui sont à la base de l'essai. Donc, ils savent qu'ils veulent opérer tel pas. Ils commencent à appeler le numéro vert. Pour désorienter les interventions, vous verrez, dans une commune où on nous a plus de 5 interventions, et quand on va y déployer nos éléments, on va constater que c'est dans une autre commune que les bandits sont en train d'opérer. Donc, c'est compliqué, mais c'est ce qui crée à un moment donné des cas de retard pendant les interventions. Mais nous appelons toujours à cette population-là à continuer à faire autant. Il faut que la population continue toujours à dénoncer, même ceux qui désorientent les patrouilleurs. Dénoncer partout ces cas de ces bandits-là, parce que les bandits sont dans la population. Participer massivement à la lutte contre les sécurités et en mettant toutes les informations qui sont fiables auprès de la police nationale congolaise et d'autres services de sécurité.
Au Lualaba, la tension ne faiblit pas. Dans les quartiers Golf, Istem, à Kolwezi, l'atmosphère est électrique. Ces derniers jours, près de 400 maisons identifiées se retrouvent sous la menace d'une démolition imminente. Les autorités provinciales ont dépêché sur place des équipes de différents services pour déterminer exactement quelle habitation devrait être démolie. Selon des sources locales, la concession sur laquelle s'étend le quartier Golf Istem appartiendrait à la régie de voies aériennes, la RVA, et du côté des habitants, c'est la désolation totale. Reportage signé pour les Munanga.
Mercredi dernier, près de 150 éléments armés, dont des militaires des FARDC et de la police, se sont rendus au quartier Golf Istem à Kolwezi. Ils étaient accompagnés des agents des services de l'État qui avaient pour mission de marquer des signes de croix sur les maisons à démolir, indiquent les habitants de ces quartiers. Sur place, c'est la désolation des habitants dont les maisons sont ciblées. Nous, les habitants du quartier Golf Istem, nous apprenons que vous allez démolir nos maisons. Nous avons acheté nos parcelles. Nous n'avons pas volé. Vous nous brisquez et pourtant vous nous avez demandé d'établir un cahier des charges. J'ai acheté officiellement ma parcelle au cadastre. Je n'ai pas d'autres maisons ailleurs. Nous avons acheté ce terrain dans la souffrance. Il y a ceux qui vendaient la braise, les poissons pour acquérir ces parcelles. Toutes les tentatives pour avoir la réaction des autorités du Lualaba sont restées vaines. Signalons que le gouvernement provincial qui modernise l'aéroport de Kolwezi clôture la concession de la régie des voies aériennes. L'espace qui relaie aujourd'hui est situé en dehors de la clôture de la RVA, indique des sources à Kolwezi. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Et dans la page culture, cap maintenant sur Kinshasa, où l'art s'invite au cœur du débat public. Dessin pour la paix, journaliste armé, public résilient, c'est le thème de l'exposition de dessin de presse organisée ce vendredi 6 février par Balobaki Tchèque, en partenariat avec l'ambassade du Canada en RDC. Balobaki Tchèque, plateforme spécialisée dans la vérification de faits, œuvre pour le renforcement de la démocratie en RDC à travers la formation des journalistes, l'éducation aux médias et la production des contenus fiables pour contrer le discours de haine et la désinformation. Cet événement a réuni une délégation de l'ambassade du Canada, le secrétariat général de l'ONG Journalistes en danger, représenté par Chivis Chivwadi, ainsi que de nombreux participants, journalistes, créateurs de contenu, étudiants, tous venus échanger autour du rôle du dessin de presse dans la sensibilisation des communautés. Avant la clôture, les invités ont parcouru les œuvres caricaturales exposées et pour mieux en comprendre la portée, le dessinateur Tembo Kachaouri en livre les sens au micro d'Élise Kavira.
Évidemment, il fallait dessiner les journalistes qui travaillent dans les milieux de conflit. Tu vois, les journalistes reporters, les correspondants de guerre, ils travaillent dans des conditions difficiles. Quelles précautions ils doivent prendre pour faire son travail comme il faut, pour qu'on ne soit pas taxé d'appartenir à un camp ou à un autre. C'est pas toujours facile. C'est vrai qu'on demande aux journalistes de prendre des risques mesurés. J'utilise l'humour ou des images choc pour expliquer les choses. Avec mon dessin, je traque les non-dits, les implications. Donc moi, je fais cet effort de faire des illustrations, des faits. J'aime bien aller au-delà. Je peux me permettre des fantaisies, mais je dois garder l'information de base intacte.
Actualité internationale.
18 supporters sénégalais restent détenus à Rabat après la violence survenue à la fin de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et le Maroc. Ne se sentant pas entendus par les autorités locales, ils ont décidé vendredi 6 février d'entamer un jeûne, une forme de protestation destinée à attirer l'attention sur leur situation. L'un d'eux a même été brièvement hospitalisé avant de réintégrer les centres de détention. Leur avocat, maître Patrick Kabou, qui les accompagne depuis plusieurs jours, évoque un dossier complexe et une incompréhension totale de ses clients. Selon lui, les supporters affirment ne pas savoir précisément ce qui leur est reproché et se heurtent surtout à une barrière linguistique. Les interrogatoires ayant été menés en français et en arabe, des langues qu'ils ne maîtrisent pas. Il explique ne comprendre que les Wolof estiment que leur version de fait n'a jamais été correctement entendue.
L'invité.
À présent, place à l'un des acteurs clés du secteur de transport routier dans la région, Bridiné Mbuya Mandé, président régional des camionneurs de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, alerte sur les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les chauffeurs étrangers en RDC, agression dès leur entrée sur le territoire et vol répété des cargaisons, notamment des feuilles de cathode sur les axes du Haut-Katanga et du Lualaba. Il en parle au micro de Paulin Munanga. Place à
Monsieur Bridiné Mbuya Mandé, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment tout d'abord s'organise votre association? Parce que vous contrôlez les camionneurs de la SADC.
Et nous nous organisons de telle sorte qu'à partir de la porte d'entrée, de la frontière par laquelle les camionneurs entrent, que ce soit Kasumbalesa, Mokambo, Sakania, il y a nos agents qui les prennent en charge, qui les assistent. Il y en a qui viennent pour la première fois, qui connaissent pas les rouages de notre territoire ou les codes de la route. Vous savez, les pays anglophones, ils roulent à gauche. Ici, chez nous, on roule à droite. Quand ils viennent, on les assiste. Il y en a aussi qui arrivent pour la première fois, qui connaissent pas là où ils doivent aller. Ils sont assistés par nos membres. Et s'il est ici sur notre territoire, il tombe malade, nous avons les hôpitaux à Likasi, à Kolwezi, à Lubumbashi, où on peut les prendre en charge. Et s'il y a un chauffeur qui trouve la mort sur notre territoire aussi, il est pris en charge pour les formalités de rapatriement du corps. Vous savez que quand ils viennent en grand nombre, il y a aussi beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face.
Très souvent, les camionneurs étrangers qui entrent en RDC se plaignent d'être des victimes d'agressions. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Quand les camionneurs arrivent sur notre territoire, qui arrivent en import, ce sont les cash movers, comme on dit en anglais. Ils arrivent avec les cash. Ceux qui convoitent les petits brigands ou les gens qui se sont organisés en bande, qui attaquent les chauffeurs pour leur rançonner les biens qu'ils ont. C'est une attaque gratuite, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient attaqués.
Que faites-vous pour protéger ces camionneurs?
Nous sommes en étroite collaboration avec les services de sécurité, avec les autorités de la place, la police, l'armée qui est mise à la disposition du corridor pour la sécurisation des camionneurs.
Et un autre problème, c'est le fait que des camionneurs sont victimes de détournement de leur cargaison, des cathodes, des cuivres et des cobalt. Et comment est-ce que cela se passe?
Pour le cambriolage de camions chargés par les cathodes, des cuivres, c'est vrai. Avec l'avènement de plusieurs sociétés minières sur notre territoire, cela a fait la convoitise de la marchandise qui passe en grand nombre sur les camions, qui a fait assez qu'il y ait les bandits qui s'organisent, les bandits bien armés qui s'organisent à attaquer les camionneurs pour dérober ce qu'ils ont comme cargaison. Mais à cela, il y a des mesures que la province a prises pour sécuriser les camionneurs.
Et quelles sont les mesures que les autorités ont prises pour protéger les camionneurs?
Le 19 janvier, le gouvernement provincial dirigé par son excellence monsieur le gouverneur Martin Kazembe a pris une initiative de faire une descente sur terrain pour identifier les zones à haut risque. Cela avait eu deux équipes. Une équipe du côté Likasi et une autre équipe du côté Kasumbalesa, Sakania, Mokambo, dont nous avons fait partie. Alors, les deux équipes ont identifié les zones à haut risque. Quand ils ont fait la compilation du rapport des deux équipes, ils ont fait rapport au gouverneur qui a pris une mesure immédiate pour sécuriser les camionneurs. Et à cela, il a donné plusieurs mobilités pour renforcer la sécurité. Donc, il y aura des jeeps qui vont faire les patrouilles du côté Kasumbalesa et les autres jeeps vont faire les patrouilles du côté Likasi jusqu'à Mutaka. Et il en a ajouté même des motos pour renforcer les mesures sécuritaires. Donc, dans les futurs ou dans les futurs proches, nous allons voir toutes les mesures prises par les gouverneurs, mises en place pour que les camionneurs soient sécurisés sur notre territoire.
Quels sont les autres problèmes auxquels les camionneurs de la SADC sont confrontés? confrontés souvent.
Il y a aussi le problème des embouteillages qui fait à ce que les camionneurs passent plusieurs jours sur la route, et cela est dû aux plusieurs services qui sont commis aux endroits tels que les péages, les checkpoints. Cela alourdit les services, ça fait à ce que qu'il y ait les embouteillages qui causent de la peine aux chauffeurs.
Monsieur Bridiné Mbouyamandé, je vous remercie.
Nous venons d'entendre Bridiné Mbouyamandé, président régional des camionneurs de la SADC. Il était avec nous pour évoquer les agressions et les vols des cargaisons dont sont victimes les transporteurs étrangers en RDC. Merci pour sa disponibilité. C'est ici que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Okapi. À la mise en onde, Pierre Diassinois. À la présentation, Gisèle Cage. À la coordination éditoriale, Jude Mister Bilanda. Nous vous remercions chaleureusement pour votre écoute attentive et votre fidélité. Sans faille. Pour ne rien manquer de l'actualité, retrouvez-nous sur nos plateformes numériques et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et de ceux qui vous sont chers.